Bonjour, ici Célia Héron, co-créatrice de Brise-Glace. Avant de plonger dans ce nouvel épisode de la saison 2, une petite mise en garde. Les sujets que nous allons aborder aujourd'hui peuvent heurter. Il sera question de suicide et de deuil, de survie, quand des proches choisissent la mort. Si ces sujets vous touchent particulièrement, sachez que des associations se tiennent à la disposition de tous. Retrouvez leur ligne directe sur le site stopsuicide.ch.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Et lorsque j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouvert et de bruyère en fleurs.
Gabriel, quinquagénaire roman, raconte ici l'indicible. Il a perdu sa conjointe, qui s'est suicidée en lui laissant une lettre. Après avoir élevé leur fille seule, cette dernière a elle aussi mis fin à ses jours, une nuit.
Alors, Noël est né en 1984 et sa mère, qui était fragile, a fait une dépression postpartum et a mis fin à ses jours début juillet 85, quand Noël avait 6 mois et quelques. Et dans sa lettre d'adieu, Léonore, la maman de Noël, me confiait cet enfant. Et elle nous disait qu'elle nous aimait, mais qu'elle n'avait plus la force, que c'était trop pour elle. Donc, je me suis retrouvé avec un enfant dans les bras, dont je m'étais déjà passablement occupé avant, parce que sa mère n'allait pas bien. Elle avait, en plus de ça, elle avait une fracture spontanée du bassin quelques jours avant la naissance. Mais pour moi, ça faisait aucun doute. Je m'occuperais de ma fille. Je me suis organisé pour travailler dans l'immeuble où nous habitions et l'avoir toujours près de moi, même si, bien sûr, on a eu une maman de jour et tout ça. Ce qui m'a beaucoup frappé quand elle était petite, c'est que je n'avais pas de nom. Parce que, simplement, il n'y avait pas de maman pour lui dire « c'est papa ». Et donc, je ne sais plus comment elle m'appelait, mais elle venait, elle manifestait, mais c'est sa maman de jour qui, au fond, m'a présenté à elle. « On va voir ton papa vient te chercher », etc. Donc, c'est un peu comme ça que c'est venu. Mais ce n'était pas la façon usuelle, quoi. Ce que je voyais, c'est que elle posait des questions sur sa mère qui, lentement, devenait de plus en plus concrète. C'était très progressif. Un soir, c'était un dimanche soir, elle avait entre-temps une petite sœur, Elisabeth, que je ramenais chez sa maman en voiture. Elles étaient les deux derrière. Et tout d'un coup, j'entends « Elle est morte comment, ma maman ?» Alors là, c'était la question à laquelle il fallait s'attendre, mais ça n'allait vraiment pas. Et je lui dis, écoute, je ne peux pas répondre. Là, il y a trop de trafic, je vois des phares de voitures dans tous les sens, je dois faire attention, il pleut. Je te réponds après. Je ramène Elisabeth, je la dépose, tout va bien. Je n'ai pas fait 10 mètres en voiture. Alors elle est morte comment, ma maman? J'ai pas eu le temps de réfléchir, quoi, je sais pas. Je lui dis, tu te souviens dans La Flûte Enchantée, à un moment donné, il y a Pamina qui est tellement triste qu'elle veut plus vivre. Elle veut se planter un couteau dans la poitrine. Puis à ce moment-là, il y a les trois petits garçons qui arrivent puis qui lui disent, fais pas ça, fais pas ça. Après, dans l'histoire, il y a Papageno qui est triste aussi parce qu'il ne peut pas retrouver Papagena. Et il veut se pendre à un arbre. Si elle ne vient pas, je me pends à la corde. Et à ce moment-là, les trois petits garçons arrivent et lui disent « Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça ben !» Pour ta maman, les trois petits garçons ne sont pas venus. Les rapports avec ma belle-famille, donc les grands-parents et les tantes de Noël, étaient compliqués. Il a fallu attendre très longtemps jusqu'à ce qu'il lui parle de qui était sa mère. Parce que je voulais qu'elle ait d'autres témoignages, d'autres gens. Mais récemment, ma belle-sœur m'a écrit que j'avais mis un tabou sur cette question. Puis, je sais pas, enfin, moi, je ne le sens pas du tout comme ça. Pour moi, au contraire, non. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont vécu.
Est-ce qu'elle-même avait des fragilités psychologiques ou psychiques, votre fille? Et si oui, à quel moment est-ce que vous vous en êtes rendu compte?
Les 5 premières années, je pense, ça a été malgré tout des belles années pour elle. J'avais une maman de jour qui était dans une maison juste à côté. Et puis depuis le balcon, elle pouvait appeler à mon bureau. Si en été, si la fenêtre était ouverte, j'aimerais voir papa. Et puis, je pense que cette femme a été quelqu'un de merveilleux pour elle. Ensuite, je me suis remarié et ces 3-4 années ont été vraiment une catastrophe pour Noël. Son copain, donc, à l'époque où enfin, ils étaient ensemble depuis déjà 6 ou 7 ans, quand elle est morte, me disait, elle me parlait plus souvent de ce cauchemar-là que de sa mère. Un jour, elle avait 15-16 ans, tout d'un coup, un soir, assez tard, elle déboule dans ma chambre sans crier gare, et puis elle me dit, papa, il faut que tu m'aides. Je fais de l'anorexie, je mange plus, ça peut pas continuer. Donc c'était elle qui s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup perdu de poids. Et alors, elle a vu un psychiatre qui a fait du très bon travail puisqu'elle s'en est sortie. Mais ensuite, elle a continué de voir à différents épisodes des psychiatres. Elle avait fait un Erasmus à Heidelberg, où finalement elle n'est pas restée 6 mois ou 1 an, mais presque 2 ans. Et un jour, le copain qu'elle avait m'a téléphoné, m'a dit « il faut venir, ça va pas du tout ». J'ai dû l'hospitaliser. Par pudeur, je sais pas quoi, j'ai pas été assez curieux. Mais enfin, bon, clairement, elle avait dû essayer de mettre fin à ses jours, je sais pas comment. Il y avait ce... C'est pas une distance, mais un respect de l'autre. Il y a des choses... On pouvait énormément se parler, mais il y a des choses qu'on n'abordait peut-être pas assez. Et donc, je suis venu, je suis resté une semaine là-bas. Finalement, elle est ressortie après quelques jours. Et bon, elle a repris goût à la vie.
Ça, c'est la seule tentative de suicide qu'elle ait fait avant de se suicider ?
Non. Lorsqu'elle avait 7 ans, peut-être... Elle était tellement malheureuse dans la famille qu'on avait recomposée. Et un jour, le père de la fille aînée de mon épouse de l'époque, donc ma seconde épouse, redescendait. Il était venu rendre visite, il redescendait une route. Et au détour d'un virage, elle était couchée par terre. Elle attendait que quelqu'un l'écrase. Et il l'a prise dans la voiture, il l'a remontée. Puis ça... Je ne l'ai appris que quelques années plus tard. Il avait gardé ça secret.
Comment est-ce que elle s'est suicidée et comment est-ce que vous l'avez appris ?
C'était un vendredi soir. J'étais à la maison. Ma copine devait venir le lendemain matin. Elle prenait l'avion depuis Berlin à 6 heures du matin. Et puis... c'était toujours un peu le stress quand elle venait, parce qu'elle avait un problème avec mes animaux. Donc j'avais décidé de brosser le chien, et comme souvent, j'étais debout au milieu de la nuit, en train de brosser le chien. Et tout d'un coup, on sonne à la porte. Première réflexion, qui c'est qui sonne à 4 heures du matin ? Je vais à l'ouvre-porte, je demande qui c'est, j'entends « police ». J'ouvre, il y avait 2 gendarmes, et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis mis sur pilotage automatique. Et on entre dans le séjour de l'appartement, il m'assoit, voilà, on est venu vous annoncer que votre fille est morte, elle s'est suicidée, c'est son ami qui l'a retrouvée. J'étais... interloqué, il n'y a pas eu de cri, ni de larmes, ni de d'éclat quelconque. Il m'a donné plus de détails, les tentatives qui avaient été faites pour la sauver, expliquer ce qui était passé la soirée. Elle avait passé la soirée avec 3 ou 4 de ses meilleurs amis. Elle n'était pas bien. Et son copain était à une autre soirée, et puis ils avaient convenu qu'ils se retrouveraient à la maison tardivement. Quand il est arrivé, il y avait les lumières partout allumées. Puis elle lui avait demandé où était, je crois, la clé de la cave, ou je sais pas quoi. Et puis il est descendu à la cave et c'est là qu'il l'a trouvée. J'ai l'impression que chaque minute est gravée, là. C'est une émotion telle. Vous avez l'impression que vous êtes complètement vide. Et ça, c'est une sensation que j'ai éprouvée plusieurs fois après, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. D'un coup, je pense à ça et pff, tout le sang part. Et après, il faut reprendre ses esprits. Les policiers m'ont dit, vous ne devez pas rester seul, on ne peut pas vous laisser seul, on reste là jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un. J'ai appelé mon frère, c'était 4h30 du matin, ou je ne sais pas quoi. Et c'était la deuxième fois, parce que 32 ans avant, quand ma femme était morte, c'était aussi vers lui que je me suis tourné, parce que, voilà. Et il est venu... Et il est resté avec moi jusqu'à ce que mon ami arrive. J'envoyais un WhatsApp à mes deux filles. Je leur ai dit, rappelez-moi le plus vite possible. La cadette, pour elle, c'était midi. Donc, me téléphone. Je lui ai dit, tu es assise? Elle dit, non, je suis en train de skier. Noël est morte. Elle a fondu en larmes. Elle était avec sa copine qui l'a prise dans ses bras. Petite chose, quoi. Et sa sœur Elisabeth m'a rappelé vers 7h30 du matin quand elle s'est réveillée, puis elle a vu mon message. Et elle n'a plus pu parler, c'est son mari qui a dû venir au téléphone et raccrocher. Et elle a plus parlé pendant je sais pas combien de temps. Et son mari m'a raconté plus tard qu'en fait, la première chose qu'il a dite, mais je sais pas, une heure ou deux après, c'est « Pourquoi est-ce que ça lui arrive toujours à lui ?» Et ça m'a beaucoup touché parce qu'elle pensait... Elle était horriblement triste d'avoir perdu sa sœur, puis elle pensait à moi. Oui, c'est... Voilà. La dernière fois que j'ai vu Noël, c'était mercredi matin, donc 3 jours avant. Elle est arrivée de bonne heure, comme elle faisait souvent. Je peux venir boire un café. Et puis on parlait. Elle me racontait des choses très positives, des trucs qu'elle faisait qui marchaient bien et dont elle se réjouissait. Et je savais qu'elle avait régulièrement chez sa psychiatre, très tôt le matin, une séance, et qu'elle venait me voir après. À aucun moment, j'ai eu l'impression qu'elle venait me dire au revoir. J'ai eu un téléphone par la suite avec sa psychiatre qui tombait des nues, je n'ai pas pensé. Une de ses meilleures amies affirme qu'elle sentait le danger venir déjà depuis quelques mois. Son copain, un peu moins. Pour nous, c'était une décision subite. Elle n'a pas laissé de lettres. Elle a juste laissé un petit papier avec « je dois de l'argent à un tel ». Évidemment, après, on peut penser tout ce qu'on veut. Est-ce qu'elle n'a pas eu le temps? Est-ce qu'elle a pensé qu'on comprendrait? Est-ce qu'elle ne voulait même pas le formuler? Ça parle aussi en faveur de la décision subite où, pendant une demi-heure, il a manqué quelqu'un. Mais de toute façon, manquer quelqu'un... si manque quelqu'un, c'est qu'elle a cherché à être seule à ce moment-là. Si quelqu'un veut mettre fin à ses jours, il finit par y arriver. On ne peut pas les enfermer non plus. Il n'y a aucun reproche, c'est beaucoup de tristesse. J'avais dit une fois à Noël, tu sais, j'en veux pas à ta maman pour ce qu'elle a fait. Si toi, tu lui en veux, tu peux. Mais moi, sache que je n'ai pas de colère contre elle. J'ai pensé parfois que je pourrais me mettre en colère contre Noël. Puis non, ce serait peut-être bien que ça se fasse, mais non. C'est pas... C'est pas moi.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez le souvenir de choses que vos proches ont pu dire ou faire qui vous ont semblé très maladroites ou très malvenues?
Oui. Mon ex-femme m'a appelé le matin vers 8h30. Oui, alors je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut se parler? J'ai envie d'avoir te dire toutes mes condoléances. Mais tu as été toi-même dépressif. Est-ce que tu ne penses pas que tu as montré l'exemple qu'elle a voulu au fond faire comme toi ? Moi, j'étais sans voix. Non, sinon, d'abord, avec le copain de Noël, on a fait très vite corps. Je lui ai fait comprendre que tu n'y es pour rien. C'est pas de ta faute. Et on a été très très proches pendant les semaines et les mois qui ont suivi. On s'est plus vu plusieurs fois. À l'enterrement, il y avait sa famille, mais lui était à côté de moi. Et pour moi, c'était aussi bien de pouvoir partager ça avec lui, parce que j'avais vécu, si on veut, déjà il y a 32 ans, ce que lui venait de vivre. Il pouvait comprendre, je pouvais comprendre par où il passait. Et, ouais, c'était important.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous a dites à l'époque qui vous ont particulièrement réconforté ?
Oui, j'ai une nièce qui, pendant quelques temps, m'a envoyé tous les matins un WhatsApp de réconfort. C'est une nièce avec laquelle je n'ai pas énormément de contact, mais elle m'a envoyé un petit cœur, un petit bec, bon courage, des choses comme ça. Ça me touchait beaucoup. Il n'y a pas de mots. Les condoléances, c'est saoulant. Il y a des choses plus importantes que ça. Regard, aller manger ensemble, parler d'autre chose, rire même. Parce qu'on ne fait pas que pleurer, on rit aussi. C'est dans cet état très labile où on est après un deuil, quel qu'il soit, on a quand même une humeur très, très changeante. On peut passer du rire aux larmes en quelques secondes et vice-versa aussi. Parce qu'on en a besoin. Mon pilotage automatique dont j'ai parlé, il a duré quelques mois, pendant lesquels j'ai travaillé. Noël est morte en février, et tout d'un coup, en juin, la corde a sauté, quoi, c'était fini. Je me suis retrouvé assis sur un canapé pendant des mois, à rien faire. Mon amie, qui est musicienne, qui fait une carrière, m'a pris avec elle, dans toutes ces tournées en Allemagne, en Norvège, au Japon, en Belgique, en France. Et pour moi, c'était des sorties bienvenues, parce que j'étais plus seul. C'est un milieu que je connais bien. On parlait d'autres choses, et puis on passait des bons moments. Mais quand je revenais à la maison, non, c'était pas top. Bon, cet état de larve a duré des mois. Et puis un jour, je me souviens très bien, j'étais à la copée en train de regarder la gondole des poissons. Et je me dis, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je me fasse hospitaliser. Ça a été assez vite. Je suis resté là-bas plusieurs semaines et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça ne m'a pas permis de sortir vraiment, mais ça m'a aidé, clairement. C'était à fin 2017. Et début 2018, je me suis dit, je vais essayer de recommencer à travailler. Ça n'a pas marché, donc. Puis après, je me suis dit, il faut que je fasse d'autres choses. Je me suis acheté des souliers de marche, je me suis acheté un abonnement général, un passeport musée pour avoir des tas d'activités. Et puis je m'étais aussi inscrit à un cours de théâtre qui m'a fait énormément de bien, que je continue toutes les deux semaines, 3 heures de théâtre avec une très très bonne équipe, on fait un très bon travail, ça me plaît énormément, ça me sort. Et au début de cette année, 2019, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'espérer retravailler un jour. J'en mesure pas encore tous les effets, mais je pense que ça a été très libérateur. Très vite, je me suis dit, il faut que je déménage, je ne peux pas continuer de vivre ici, c'est trop cher. Ça voulait dire que je renonçais à aller tous les jours sur la tombe de Noël, je renonçais au confort que j'avais ici, et j'essayais de reconstruire autre chose ailleurs. Ça, c'est un déclic important, mais ça, voilà, c'est arrivé 2 ans après.
Pendant 2 ans, vous êtes allé tous les jours sur sa tombe ?
À peu près.
Qu'est-ce que vous lui disiez ou qu'est-ce que vous faisiez ?
J'y allais avec mon chien, il s'assied à côté de moi devant la tombe. Des fois, il y a même le chat qui nous accompagne, c'est pourtant à 300 mètres. Plusieurs fois, j'ai récité le poème de Victor Hugo. « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. » Et qui se termine par « Et lorsque j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. » C'est un poème très connu qui s'appelle « Demain, dès l'aube ». C'est l'incipit, c'est comme ça qu'il commence. Victor Hugo fait allusion à sa fille Léopoldine, qui est morte à l'âge de 19 ans, dans un naufrage d'une petite embarcation sur la Seine. Il ne savait pas nager, elle et son mari sont morts. Victor Hugo s'en est jamais remis.
Est-ce que vous vous êtes mis en relation avec des gens qui avaient aussi perdu un enfant ou est-ce que ça n'a pas spécialement été dans vos projets?
J'ai pensé le faire, mais je ne l'ai pas fait. La vie a fait qu'un couple d'amis très proches s'est retrouvé dans la même situation une année après. Je suis parrain de leur fille. Et on s'écrit beaucoup depuis quelque temps, mais ça a encore approfondi notre relation. Bon, ils habitent pas tout près. Voilà. Et puis, il y a quelques semaines, je rencontre dans la rue un commerçant que je connais bien. Je dis, il y a longtemps que je ne vous ai plus vu. Il me dit, oui, depuis la mort de mon fils, j'ai décidé de remettre mon magasin. On s'est parlé un peu, il est lui-même encore très touché, et on s'est compris à mi-mot. Il y avait quelque chose qu'on partageait. C'était des circonstances de mort insupportables.
Est-ce que vous avez eu des souvenirs qui ont commencé à revenir, par exemple? Dans quelle mesure est-ce que, finalement, Noël était encore présente après son décès?
Alors, après son décès, j'ai commencé à compiler tous les messages WhatsApp qu'on avait échangés. Le nombre était faramineux. Il y en avait quelque chose de l'ordre de 200 par quinzaine. Et c'était pas des choses, ça va, c'était des discussions longues, nourries. Elle travaillait à Genève, elle prenait le train pour aller à Lausanne, le réseau était pas bon, elle n'aimait pas téléphoner dans le train, alors on parlait presque tous les jours. Et puis elle me téléphonait en général une fois par semaine, et on se parlait aussi beaucoup. C'était toujours passionnant et très drôle. Elle avait un humour dévastateur, très caustique, très cinglant. Elle avait aussi une facilité de répartie. S'il fallait remettre quelqu'un en place, elle était là. Ce dont je me suis rendu compte à l'enterrement, c'est que je voyais ma fille d'une certaine manière, mais ses copains la voyaient tout différemment. Je ne me rendais pas compte qu'eux avaient une estime incroyable pour elle. Ce n'est pas que je n'en avais pas, mais pour eux, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je ne me rendais pas compte. Ce dont j'ai souvent eu l'impression, c'est qu'elle laissait une marque chez ses déjà camarades de classe. Bon, elle a changé plusieurs fois d'école parce qu'on déménageait une fois dans un village ici, une fois dans l'autre, etc. Trois fois, elle a reçu des lettres des camarades de classe pour lui dire « Je suis triste que tu pars, je t'aimais beaucoup ». Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plusieurs de ses amis étaient eux-mêmes orphelins de père ou de mère. Comme ça, il y avait une espèce de discours non-verbal qui faisait qu'elles se voyaient, se comprenaient et se rencontraient, et qu'elles apprenaient seulement après ce qui les avait rapprochées.
Qu'est-ce que vous avez fait des compilations de messages WhatsApp et des conversations?
Alors, je les ai gardées, mais il y a eu un problème, c'est qu'un jour, j'ai dû réinitialiser mon smartphone et je ne savais pas qu'il fallait enregistrer tout. Donc, j'ai perdu tout ce que je n'avais pas encore mémorisé. Je suis triste, mais voilà, c'est comme ça.
Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui peut-être écoutent cet épisode et sont dans la situation dans laquelle vous étiez il y a quelques années, au moment où vous avez appris le suicide de votre fille?
Je pense que le plus facile, c'est de faire front. Ma belle famille a essayé de faire croire que ma femme était morte d'un cancer. Ça me met tellement en colère. C'est pas respectueux pour celui qui est mort. Et puis, on se rend un très mauvais service parce que ça finit toujours par se savoir. Ils m'ont beaucoup reproché d'avoir dit à Noël cette histoire de flûte enchantée. « Comment tu as pu faire ça, enfin ?» Je dis, ma plus grande crainte, c'était que quelqu'un soit assez con pour le lui dire, alors que ce n'était pas sa fonction. C'était à moi de lui dire, et je devais répondre à ses questions quand elle viendrait. Je ne devais jamais cacher. C'était à moi de le faire. C'était une question de confiance. Et je me suis très vite posé la question, quand on me demande j'ai combien d'enfants, et je réponds 3. Et ceci, c'est ça se creuse, que je dis il n'y a plus que 2 en vie, mais je dis j'ai 3 enfants, Noël n'est pas gommée. Elle continue d'exister, elle a été là, elle reste là.
Aujourd'hui, quelle place a Noël dans votre vie, dans votre quotidien?
C'est assez compliqué parce que j'ai eu 3 filles de trois lits différents. Noël est la seule que j'ai élevée seule. De par cette position, elle occupait un statut spécial. Tout d'un coup, il y avait une nouvelle fratrie, si je peux dire, non plus à trois, mais à deux. D'ailleurs, Elisabeth a assez rapidement dit « C'est lourd d'être tout d'un coup l'aînée. » J'avais pas pensé. Donc, en ce qui me concerne, j'essaye de faire la part des choses. Je suis infiniment triste de la mort de Noël, mais je veux pas que ça jette une chape de plomb sur ceux qui restent, ceux qui vivent encore, ceux qui ont un amour aussi. D'ailleurs, tous nos rapports ont changé et je suis content de la manière dont ils ont changé.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Lise Boucher. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours.